Bonjour. Ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que je vais témoigner d'une expérience. Je ne suis ni rome, ni roumaine, ni bulgare. Ce que j'ai appris des personnes que j'ai rencontrées, notamment dans les communautés roms, notamment dans les associations, ou aussi avec les autorités publiques avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai été effectivement pendant presque 6 ans en Europe orientale, en coopération bilatérale, après avoir participé à un projet européen sur la législation sur les droits de l'enfant en Roumanie. Et j'ai eu à cette occasion à travailler sur les droits de l'enfant, donc prioritairement, bien sûr, sur le droit à l'identité, qui se pose encore, sur le droit à l'éducation, sur le droit à la santé, sur le droit à avoir des services sociaux et avoir une protection quand les enfants en avaient besoin, et sur le droit aussi à la participation, à la reconnaissance de la parole des enfants et de leur famille. Donc j'ai surtout travaillé, je dois dire, sur ces questions-là avec la société civile, avec des associations ou des ONG roms ou non-roms d'ailleurs. Et donc c'est un peu ce témoignage que je voulais vous rapporter, en pensant particulièrement à un certain nombre des personnes que j'ai rencontrées là-bas, et notamment à des femmes roms. On en a peu parlé depuis ce matin, mais dans les signes d'espoir, moi j'y mets quand même beaucoup ce qui se passe actuellement par rapport à effectivement au rôle des femmes dans ces communautés. Alors, ce que je voulais aussi vous dire en préalable, je vais vous parler des constats et puis de la situation effectivement, comment ça se passe, notamment en Roumanie et un peu en Bulgarie. Je vous dirai un peu ensuite à partir de la mission. Donc j'ai passé presque 6 ans là-bas, et là je viens de rentrer depuis le 1er septembre en France. J'ai rejoint ma collectivité de rattachement, le Conseil général de l'Isère, où on m'a proposé de faire une mission transversale pendant 6 mois sur effectivement un état des lieux et des propositions. Il est bien entendu que cette mission, pour moi, elle ne s'arrête pas à Grenoble et à l'agglomération grenobloise, mais qu'avec les liens que j'ai pu tisser en Roumanie, en Bulgarie, et les liens aussi tissés avec des collectivités françaises, je vous en parlerai à la fin, ou même au niveau européen, j'espère que ça pourra aider à faire du réseau sur cette question. Constat d'abord, on parlait tout à l'heure de 10 à 15 000 Roms en France, qui, Alexandre Leclerc disait, le chiffre est stable depuis un certain temps, effectivement. Il faut savoir qu'il y a en Roumanie 10 à 12 millions de Roms, ce qui fait autour de 8% de la population, et qu'il y en a 750 000 en Bulgarie, ce qui fait 10% de la population, puisque la Bulgarie compte 7 millions d'habitants, la Roumanie 21 millions environ. Je dis environ parce que seulement en Roumanie, 500 000 Roms ont déclaré qu'ils étaient Roms, la plupart du temps pour des raisons de discrimination, souvent en accédant à un certain niveau de vie, etc. Beaucoup de Roms qui ne sont pas forcément militants ne se déclarent pas effectivement Roms. Le député rome au Parlement européen récemment disait que... pas au Parlement européen, au Parlement roumain, excusez-moi, disait qu'il était le seul député du parti rome représenté au Parlement, mais que si tout le monde se déclarait, tous ceux qui étaient roms se déclaraient roms, il y aurait environ 25% de parlementaires roms roumains. Bon, je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, ça illustre bien cette question. Donc, en France, si on compte les gens du voyage... Les 400 000 gens du voyage plus les 15 000 Roms, ça fait moins de 0,6% de la population. Donc il faut déjà regarder ça pour mettre en perspective effectivement la question qui se pose en France. Moi, c'est vraiment la première chose qui m'a frappée en rentrant. Rappeler rapidement l'histoire, on dit souvent en France, ce sont des nomades, ce sont des gens du voyage. Non, ce ne sont pas des nomades. La plupart des Roms de Roumanie, de Bulgarie sont sédentarisés. Les artisans bougent pour leur profession, mais la plupart sont sédentarisés. Ça, c'est lié à l'histoire, puisque ils ont été en partie dans certaines régions, dans une grande partie de la Roumanie, par exemple, ils ont été esclaves jusqu'en 1846, donc attachés à la terre, attachés au seigneur ou au monastère pour lesquels ils travaillaient. Et ensuite, du temps du communisme, donc à partir des années de 45, ils ont été aussi sédentarisés pour des raisons notamment économiques et parce que c'était une politique d'assimilation. La minorité rome n'était pas reconnue en tant que telle. Donc, ce sont des données à voir. La population rome n'est pas une population univoque, c'est une population, ce sont des communautés diversifiées, avec des degrés d'intégration divers. Tous les roms ne sont pas pauvres, contrairement à ce que j'entends dire, même en France, tous les roms ne sont pas pauvres, mais c'est vrai que parmi les pauvres, les roms sont la population effectivement la plus représentée, c'est aussi une réalité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des groupes, des familles qui viennent en France sont d'origine rurale. Puisque effectivement ils avaient été plutôt sédentarisés soit à proximité de petites villes, soit dans des villages. Et quand j'ai fait effectivement le tour des terrains ou des squats dans l'agglomération grenobloise et que j'ai pu discuter avec eux en leur demandant d'où ils venaient, effectivement ils viennent quasiment tous de villages. Donc ça, c'est aussi une donnée, parce qu'il faut savoir qu'en Roumanie par exemple, le milieu rural et le milieu urbain sont très différents, et que 48% à peu près de la population est en milieu rural, et que les services en milieu rural sont beaucoup moins développés, que les autorités locales en milieu rural ont beaucoup moins de moyens, de ressources humaines et financières, et donc que toute la population, mais en plus la population rome, dispose peu de services. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Quant au mode d'habitat, je dis, ils sont plutôt ségrégés, les communautés roms sont plutôt ségrégées, vivent un peu en périphérie des localités. 83% des roms roumains vivraient en périphérie des localités. Et en Bulgarie, c'est encore plus marqué, puisque moi, mon constat, ce que j'ai vu en Bulgarie, c'est souvent des grands quartiers, des sortes de ghettos, celui de Sliven, celui de Facultats à Sofia, celui de Kazanlak, sont des grands quartiers, par exemple à Sliven, où je suis allée, il y a 20 000 habitants, avec trois grandes communautés roms, qui elles aussi sont, il y a des classes, il y a des communautés plus riches et plus évoluées, que sont les musiciens, et puis il y a les très pauvres, qui sont vraiment très très pauvres, qu'ils appellent les naked. Donc, je pense que ça, c'est important à savoir pour donner aussi un éclairage par rapport aux populations qui sont ici et ne pas avoir des idées, pas penser que c'est vraiment univoque. Il y a vraiment des réalités diverses. Savoir aussi que en Roumanie, la minorité rome est reconnue en tant que minorité, comme les Hongrois, comme les Allemands, comme d'autres communautés. Vous pouvez aussi avoir, c'est le cas à Grenoble, on a le cas, des Roms roumains d'origine de la minorité hongroise, donc ils peuvent accéder à la nationalité hongroise de ce fait, et du coup ne pas être soumis aux dispositions transitoires. Donc aussi les aider à faire cette démarche s'ils le souhaitent, s'ils le demandent, pour effectivement avoir un statut un petit peu plus favorable, par exemple. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et dire aussi, parce que c'est une réalité, qu'il y a effectivement discrimination, même si dans la politique publique, dans ce qui est affiché, annoncé, il n'y a pas de discrimination et qu'il y a égalité des citoyens roumains, il y a dans les faits et dans les discours dans une majorité de la population, il ne faut pas la non plus généraliser, mais il y a quand même souvent de la discrimination. À preuve, le débat qu'il y a eu sur le terme de Rome l'année dernière en Roumanie, il y a eu un débat très virulent, où j'ai lu effectivement des choses assez terribles sur effectivement Rome ou Tzigane, et un certain nombre de Roumains voulaient qu'on supprime le terme de Rome et qu'on les appelle Tziganes. Or les Roms eux-mêmes ne souhaitent pas qu'on les appelle Tziganes, puisque c'est pour eux ça signifie esclave, alors que Rome signifie homme. Je raccourcis un peu là, je m'excuse pour ceux qui sont plus spécialistes que moi de la question, mais je crois que ça donne du sens aussi à ce type de débat qu'on peut entendre sur cette question. Alors, on a constaté effectivement en Europe occidentale une mobilité des Roms d'Europe orientale. D'abord, après les années 90, à l'ouverture, la chute du mur de Berlin, en sachant que, à cette époque-là, ça a été un effondrement économique en Roumanie, notamment, et que les Roms ont été les premières victimes de cet effondrement économique, puisque les moins qualifiés, et donc les premières migrations ont pu commencer vers l'Occident, puis c'était aussi l'Occident, le rêve, hein, on en a parlé tout à l'heure, comme l'école. Et puis, une deuxième vague de migration avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne en 2007, et un mouvement qui s'est accéléré en 2009 avec la crise qui est assez violente, avec une chute effectivement du niveau de vie, en particulier pour les populations les plus pauvres, en 2009. Et donc aujourd'hui, alors que c'était encore des familles relativement qui avaient un peu de ressources jusqu'en 2007, depuis 2009, on a des familles plus pauvres qui viennent parce qu'elles ont vraiment plus de quoi vivre en Roumanie ou en Bulgarie. Donc une migration socio-économique et une dégradation effectivement de leurs conditions de vie. Alors quelle est la situation là-bas telle que moi je peux en témoigner, telle que j'ai pu le voir en me déplaçant en Roumanie ou en Bulgarie et en allant rencontrer soit des communautés, soit des associations, soit des services. Il y a effectivement de mauvaises conditions de vie pour les familles les plus pauvres, avec un habitat précaire. Ceux qui sont allés en Roumanie ont pu voir ces villages isolés avec des chemins non goudronnés, sans eau, sans électricité, un manque d'assainissement, etc. Tout en sachant que c'est aussi lié, bon, c'est effectivement des villages roms, mais c'est aussi lié, quand c'est dans des quartiers de villages et tout, lié aussi aux conditions de vie en milieu rural. Le milieu rural, c'est encore fréquent en Roumanie qu'il n'y ait pas l'eau dans les villages. Donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte quand on veut faire des actions, j'en reparlerai tout à l'heure, de coopération. C'est des choses à avoir en tête pour ne pas non plus faire de la surdiscrimination en faisant de la discrimination positive quand on veut travailler avec le pays d'origine. Savoir aussi que l'habitat est signe du niveau de vie. À preuve, tous ces palais que construisent les boulibaches et les principaux responsables de communautés ou ceux qui ont gagné de l'argent, honnêtement ou moins honnêtement, vous pouvez aller dans un certain nombre de régions de Roumanie où vous verrez effectivement ces palais qui n'ont pas un but d'utilité d'accueillir la grande famille et tout, puisqu'en fait on vit dans quelques pièces de la maison. Quand vous êtes reçu, vous pouvez être reçu à l'entresol et on vous fait visiter la maison dans laquelle il y a effectivement, par exemple, un musée avec des instruments de musique. Ça m'est arrivé. C'est la richesse. On montre sa richesse de cette façon-là. Et c'est important de savoir que l'habitat, c'est un point essentiel. Et que bon nombre de familles qui sont venues en Europe occidentale viennent gagner de l'argent pour vivre, certes, mais aussi pour améliorer leur habitat en Roumanie, puisqu'ils ont tous, pratiquement tous, un point de chute en Roumanie, même si c'est une cabane à peu près identique à ce qu'ils ont ici, pour certains. Je fais attention à ne pas généraliser, parce que les réalités sont diverses. Donc, c'est aussi des réalités à prendre en compte. Alors, la situation aussi, c'est une difficulté d'accès aux droits, droit à l'identité, droit à la santé, droit à l'école, droit à la formation, à l'emploi. Et là, il y a un certain nombre de mesures en cours par rapport à ça. Il y a par exemple difficulté en matière de droit civil à établir une identité, parce que il faut savoir que pour établir un état civil en Roumanie, il faut apporter beaucoup de preuves, des papiers, alors que nous on a un système déclaratif, mais eux, héritage ou non du communisme, il faut avoir des papiers. Ils ont du mal aussi à avoir des titres de propriété, par exemple ils n'arrivent pas à prouver qu'ils sont propriétaires du terrain ou du lieu où ils habitent, donc ce qui crée beaucoup de difficultés. Surtout avec tous les procès qu'il y a eu pour récupérer les propriétés, etc. Concernant la scolarisation des enfants, il y a un faible niveau de scolarisation des enfants des communautés. 20% des enfants roms sont scolarisés en préscolaire, alors que 66% de la population le sont. 64% sont scolarisés en primaire, alors que 98,9% de la population, du reste de la population, est scolarisée en primaire. Donc, on voit déjà que là, l'écart se creuse, en raison de difficultés matérielles liées à la pauvreté, en raison d'éloignement lié au milieu rural, et puis aussi de réticence, par exemple, à la scolarisation des filles dans les communautés traditionnelles. Et aussi, bon, la question des mariages précoces ou de la demande aux enfants, notamment à partir de l'âge du collège, de travailler. Là, des constats aussi d'absentéisme et d'illettrisme. 80% des jeunes non scolarisés en Roumanie sont des enfants roms et 38% sont illettrés. Donc là, il y a aussi un gros travail à faire sur la scolarité qui a été déjà entrepris, mais qui est encore à conduire. Et également, une ségrégation qu'on peut constater, parce que souvent, les enfants roms, comme ils n'arrivent pas bien à suivre, soit pour des questions de langue, soit parce qu'ils n'ont pas été préscolarisés, etc., ils sont souvent scolarisés dans ce qu'on appelle les écoles spéciales ou pour enfants à besoins spéciaux. On ne dit pas handicapé, mais on dit à besoins spéciaux. Et donc, un certain nombre des enfants roms, ça figure dans le rapport de la Fédération des ONG au comité de l'ONU pour les droits de l'enfant, c'est effectivement, il y a un certain nombre de constats par rapport à cette question. Et l'abandon à la fin du primaire, il vient d'y avoir une enquête récente en janvier 2011, où on démontre, qui dit que 50% des Roms de 16 à 64 ans ont quitté l'école au cours du cycle primaire. 50% des 15 à 64 ans. Mais face à ça, des mesures positives, des choses qui bougent. L'expérience des médiateurs scolaires qui a été mise en place et du réseau des inspecteurs scolaires, dont certains sont militants pour l'éducation des Roms, et des programmes pluriannuels pour l'éducation des groupes défavorisés. Donc ça, ce sont des actions qui sont en place, qui commencent à porter leurs fruits et qui commencent effectivement à faire évoluer aussi les mentalités sur cette question. Des expériences aussi de soutien à l'éducation précoce, à la préscolarisation des enfants, donc notamment conduites par des ONG avec des écoles, et aussi à l'éducation précoce bilingue, puisque dans les communautés traditionnelles, la famille parle romani, et donc l'enfant n'entend pas la langue roumaine, et quand il arrive à l'école, il est complètement déphasé, puisqu'il n'a pas appris le roumain. Le problème est plus grave en Bulgarie, d'après les échos que j'en ai eus, puisque là, peu d'enfants roms connaissent le bulgare, ce qui, effectivement, alors qu'en Roumanie, la proportion est quand même beaucoup plus favorable. Donc, peu à peu, l'intégration des enfants se fait dans le droit commun. La scolarisation des enfants se fait dans le droit commun. Et petit à petit, la ségrégation scolaire tend à diminuer. Il y a eu un arrêté ministériel qui interdit la ségrégation, et qui a même prévu des sanctions par rapport à ceux qui le continueraient. La nécessité d'une éducation multiculturelle, donc avec un travail auprès des parents roms et non-roms, pour développer le multiculturalisme et la meilleure connaissance des cultures, et des mesures de discrimination positive. Il y a par exemple un quota, comme on a fait en France par rapport à certaines écoles, un quota pour l'accès à l'université. Bon, j'ai des amis roumains roms qui m'ont dit que ça leur avait permis effectivement d'aller à l'université au départ. Maintenant, c'est une mesure qui est critiquable, et qu'ils disent, on a l'impression qu'on nous a fait une faveur, mais ça leur a permis effectivement à ce moment-là d'aller à l'université. Il existe un fonds pour l'éducation des Roms qui a reçu près de 500 projets, et fin 2010, il y avait plus de 200 projets qui étaient mis en œuvre sur cette question. Donc, c'est pour vous dire qu'il se passe des choses aussi positives et que là aussi les mentalités, le militantisme de certains, etc., font que les choses bougent. Sur l'emploi et la qualification, il y a une faible qualification des adultes et un important taux de chômage. Lors d'une dernière enquête, il y a seulement 27% des Roms qui ont un emploi stable. majoritairement dans l'agriculture et le bâtiment, et 50% d'entre eux n'ont pas de qualification. Ça, c'est une enquête toute récente du début de l'année. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la pauvreté peut entraîner l'exploitation des plus vulnérables. Et il ne faut pas omettre de parler effectivement aussi de certains réseaux de criminalité, de trafic qui se développent, pas forcément conduits par des Roms. Il peut y en avoir qui sont conduits par des Roms, d'autres par des non-Roms, mais qui exploitent effectivement aussi cette population à travers aussi bien la délinquance que le trafic d'êtres humains. Donc là aussi, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier, y compris dans la réalité que nous connaissons en France. Enfin, autre aspect, la culture et la citoyenneté. Je disais qu'il y avait une reconnaissance des minorités, mais il y a une faible représentativité de la population rome. Je vous ai dit qu'il y avait un député rome. Et c'est pour moi une vraie question, de quelle façon, effectivement, on peut et soutenir, effectivement, une approche plus participative et permettre que les Roms et les familles Roms elles-mêmes disent leurs attentes et participent aux projets qui sont faits pour elles. Enfin, sur la santé, là aussi gros souci, je dirais, puisque le système de santé roumain est en difficulté assez grave. Difficulté d'accès aux services de soins primaires liés à des conditions de vie en milieu rural. Et un système très hospitalo-centré, ce qui fait que les besoins de proximité de terrain, il y a des médecins de famille, il y a des assistants médicaux, des infirmiers auprès de ces médecins, mais pas en nombre suffisant et les médecins sont surchargés. Des indicateurs de santé défavorables, notamment en termes de mortalité infantile. L'OMS en 2006 évoquait un taux de 40 pour 1000 enfants nés vivants, d'enfants nés morts dans la première année, donc ce qui est un chiffre assez catastrophique. Il s'est un tout petit peu amélioré ces dernières années, mais il reste quand même relativement proche. Un taux de mortalité maternelle aussi et un taux de morbidité avec une espérance de vie plus faible que le reste de la population de plusieurs années. Une insuffisance de programmes de planification familiale, d'éducation et de prévention sanitaire, même si ces programmes existent, il n'y en a pas suffisamment. Et ce que je souligne, moi, de mon point de vue, c'est qu'ils ne sont pas assez précoces. Par exemple, il n'y a pas d'intervention au collège ou au lycée sur la planification, l'éducation familiale. Ça n'existe pas de façon institutionnelle. Concernant leur affiliation à l'assurance santé, 47% seulement des femmes roms et 50% des hommes sont affiliés à l'assurance santé, donc à la sécurité sociale, contre respectivement 84 et 80% pour le reste de la population. Donc là aussi, on voit que la discrimination existe, et plus les difficultés de ségrégation et de corruption dans le système hospitalier. Et ça, je l'ai constaté de mes propres yeux par rapport à la ségrégation qui peut être faite par rapport à des femmes roms qui vont accoucher en particulier. Mais là aussi, je ne dis qu'il ne faut pas généraliser, puisque j'ai aussi pu constater dans des maternités un accueil bienveillant, une attention effectivement à ces femmes et à ces bébés, et un suivi effectivement. Là, je donne effectivement plutôt une tendance qu'une réalité générale. Des mesures positives avec la mise en place des médiateurs sanitaires. 264 médiateurs sanitaires ont été employés par le ministère de la Santé grâce à l'action de l'ONG Romani Cris, qui est une ONG rome, et à l'appui du CCFD français et du ministère des Affaires étrangères français en 2007, qui ont permis finalement, à partir de l'expérience des médiateurs sanitaires que nous avions, de généraliser cette expérience en Roumanie et de reconnaître cette profession qui est aujourd'hui inscrite dans le Code des métiers en Roumanie et qui a un référentiel métier. Depuis, ça a été transféré aux autorités locales et il y avait un peu des craintes par rapport au financement. Pour le moment, le ministère de la Santé a maintenu ce programme et donc continue de le financer. Autre question, celle de la capacité des autorités publiques, nationales, locales à conduire des politiques publiques intégrées pour cette population et des ONG à proposer des projets. La décentralisation a été mise en place, elle est même allée plus loin chez nous, puisque la protection est restée au département, mais la prévention dans le domaine social est passée aux communes, aux autorités locales. Mais c'est bien le problème pour le milieu rural, où il n'y a, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de ressources. Moi, le constat que j'ai fait sur les politiques publiques, c'est quand même, ça reste des politiques publiques assez segmentées, éducation, santé, habitat, encore en termes d'habitat, il y a peu de démarches, mais l'approche intégrée commence tout doucement, mais n'est pas encore véritablement, et que, justement, cette approche pour la population rom pourrait être assez exemplaire d'une politique publique intégrée qui prend en compte, effectivement, toutes les dimensions des besoins des familles et des personnes. Et puis, un point noir, c'est la difficulté à mobiliser les financements européens, puisque, comme la Grèce, la Roumanie est le pays qui a le moins mobilisé les fonds européens qui lui étaient destinés. En 2010, elle était seulement à 14% de mobilisation des fonds qui vont se terminer en 2013. Donc, on peut penser que ce sera difficile de rattraper, et que je disais ce matin, en 2010, la Roumanie était contributeur net au budget européen. Donc, ça pose quand même une vraie question par rapport aux réels besoins de ce pays. Des mesures positives. Donc, il y a eu un colloque avec l'Union européenne à Bucarest en septembre, et donc tout le monde a insisté, l'Union européenne a beaucoup insisté auprès des Roumains en disant « Vous êtes responsable de la politique pour les Roms dans votre pays ». Bon, l'Union européenne intervient, mais il faut aussi que l'État roumain se mobilise. Et à la suite de ça, il y a eu nomination d'un secrétaire d'État à l'intégration des Roms, et l'adoption, là, dernièrement, d'une stratégie nationale pour les Roms pour 2011-2020. Et la question aujourd'hui, c'est quels seront les moyens mobilisés par le budget roumain, et quelle priorité en fera le gouvernement roumain et le Parlement roumain pour la mise en œuvre, effectivement, de véritables actions. Ce qu'il faut souligner dans cette stratégie nationale, c'est qu'elle introduit une approche territorialisée de l'insertion des Roms. Et donc ça peut laisser penser qu'on va aller effectivement vers une approche un petit peu plus intégrée des besoins, et qui pourrait associer effectivement les communautés à la définition de leurs besoins. Alors, ce que je constate, effectivement, là, rentrant en France et chargée de mission par le Conseil général de l'Isère sur cette question pour 6 mois, chargée de faire un peu un état des lieux dans l'agglomération grenobloise et en Isère, et de faire des propositions avec tous les partenaires, collectivités locales, métro et associations avec lesquelles je travaille, c'est que aujourd'hui on a quand même deux types d'approches. On a l'approche droit de l'homme, la question d'égalité, de non-discrimination, de respect des droits fondamentaux, d'égal accès aux droits, de libre circulation, de participation, de citoyenneté. Et puis on a l'approche, pas forcément contradictoire, hein, mais qui amène d'autres conséquences, je pense, c'est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et le renforcement de la cohésion sociale, avec la lutte contre l'habitat indigne, la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie, la protection sociale. Et ça, c'est l'approche un petit peu de la Direction générale Emploi, Affaires sociales de la Commission de l'Union européenne, alors que l'autre est plutôt portée par la Direction Justice, Droits de l'Homme. Donc, c'est important de prendre en compte ces deux approches, puis d'essayer aussi de s'en inspirer. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est un peu, puis aussi ce qui m'a été demandé, c'est un peu 3 axes de travail. C'est d'une part ce qui était évoqué tout à l'heure, ce qui est l'accueil et l'accès aux droits, puisque ces personnes, citoyens européens, ont des droits chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser cet accès aux droits? Le deuxième axe, c'est autour de l'insertion en France des familles qui souhaitent s'insérer en France. Et il y a effectivement un certain nombre de familles qui souhaitent s'insérer en France. Et là, on a évoqué plusieurs projets. Et le troisième, c'est le soutien à l'insertion en Roumanie. Et je pense que là aussi, les collectivités locales françaises peuvent apporter leur pierre tout à fait à cette démarche, et le sommet des maires au Conseil de l'Europe le 22 septembre, à laquelle j'ai pu participer, a beaucoup insisté sur ce projet en disant il faut que les collectivités entre elles fassent des échanges et puissent créer. Donc, il y a actuellement en Roumanie plusieurs collectivités qui se sont déjà engagées, l'agglomération nantaise, l'agglomération lilloise, l'agglomération lyonnaise, le Conseil général du Rhône, et donc, moi, il me semble, au jour d'aujourd'hui, qu'il est à la fois important de faire du réseau en France et dans l'Union européenne, mais aussi de développer, effectivement, cette coopération à un niveau très local, en prenant en compte des projets individuels de famille, mais aussi la dimension communautaire sur place, communautaire rom ou non-rom, pour qu'on ne recrée pas une ségrégation dans les projets qu'on pourra soutenir là-bas. Voilà. Et moi, je suis convaincue que, de toute façon, c'est l'intérêt, il y a intérêt à agir pour le bien de tous. On l'évoquait pour la santé, dans le domaine de la santé publique. C'est l'intérêt de tous d'agir dans le domaine de l'économie. Et donc, c'est une vision à court terme de refuser, effectivement, d'avancer sur cette question. Voilà. Je vous remercie de votre attention.